la joie et l'honneur de présenter la deuxième rencontre. Parce qu'Erwan, c'est honteusement définant, pas du tout. Il subit les événements, mais Erwan Cario attend. On va quitter le monde, monde doux et le monde mémoriel de la musique pour s'intéresser à une question peut-être assez précise sur la conception de jeu. On se demande. La question est tarte à la crème, c'est-à-dire l'influence du cinéma dans le jeu vidéo. Mais cette fois, on va prendre un peu plus précis, c'est dans la conception de jeu vidéo. C'est-à-dire que dans le game design lui-même, est-ce que le cinéma a une influence, on va dire, décisive ou en tout cas importante? Et je vais demander à Sylvie Robert, si elle est là, de venir m'accompagner, qui est responsable du département au cinéma d'animation et jeux vidéo à Créapol, à Paris. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Prenez un micro. Et Jérôme Dittmar, rédacteur en chef de Carbone. Tout va bien dans ce silence quasi crépusculaire. Là.
Ça va être, on est dans une bibliothèque.
C'est beau, non, c'est joli. Non, mais applaudir en silence, c'est quand même très beau. Je trouve que ça restera un moment poétique. Heureusement qu'on aura une capture vidéo pour témoigner un jour. Voilà, qu'on a. Donc, l'influence du cinéma dans la conception de jeu. La question est assez précise. On verra que les angles sont très différents entre vous, Sylvie et Jérôme. J'aimerais commencer par vous, Jérôme.
Non, t'as pas changé
les
noms.
Ah, je suis nul. Alors, change les noms. Mais le mien, parce que le mien change pas, en fait. Si. Jérôme, alors c'est une tarte à la crème, cette influence du cinéma dans la conception de jeux vidéo, mais est-ce qu'on peut lister finalement ces influences directes? Est-ce que c'est dans les contrôles? Est-ce que c'est dans le design? Est-ce que c'est dans les graphismes? Est-ce que c'est dans le genre? Jusqu'où va cette influence du cinéma dans la conception de jeu?
Alors cette influence, elle est tout d'abord culturelle, évidemment, puisque dès ses débuts, le jeu vidéo s'est appuyé sur divers genres, et ces genres étaient des univers, et forcément ces univers venaient beaucoup du cinéma et beaucoup de la série B. Donc les jeux de combat, ça pouvait être le film d'arts martiaux, comme Kung Fu Master, vous aviez le western, évidemment, puisque c'était un genre tellement populaire qu'il pouvait se décliner assez facilement.
C'était les super-héros de l'époque. Hein,
Puis c'était des genres aussi qui pouvaient se décliner assez facilement en action. Puisque voilà, le western, il suffit d'avoir un cow-boy et ça tire. Et puis le jeu vidéo, c'est assez. En tout cas, dans ses rudiments, est assez basique. Donc il suffit d'avoir un personnage et on tire. Donc je dirais que d'abord, il est culturel. Donc forcément, de là, ça a décliné sur des univers graphiques. Et puis les choses se sont complexifiées avec le temps.
C'est-à-dire, est-ce que ça a été... Non, mais on peut continuer. C'est-à-dire que c'est allé au-delà au-delà des genres, parce que les cinématiques, parce que la technologie évoluant.
Alors évidemment, puisque la technologie évoluant, et puis puisque avec l'évolution de cette technologie aussi, évolue une écriture, des attentes, on complexifie donc les récits, on complexifie évidemment la façon de faire les jeux, donc on y introduit des choses qui viennent du cinéma comme la manière de filmer, la place de la caméra, le mouvement de la caméra, donc forcément ça a un impact aussi sur le déplacement du personnage, et puis aussi, comme je le disais juste avant, sur la manière d'écrire les histoires et donc d'interagir avec ces histoires.
Sylvie Robert, donc vous êtes responsable du département cinéma d'animation et jeux vidéo à Créapol, donc cette école à Paris. C'est cette influence chez vous, elle se lit directement dans le cursus.
Oui, puisqu'on forme les étudiants en première année de spécialisation cinéma et jeux, c'est commun, c'est un tronc commun. Et ils vont commencer par écrire des histoires. Et après, au bout d'un an, ils vont commencer à faire les jeux vraiment. On ne leur interdit de faire des jeux au départ. On les fait réfléchir sur des histoires et tout un univers graphique. Donc on les forme plutôt à la direction artistique. Les influences du cinéma vont venir de partout. Puisqu'à Créapol, on a un grand secteur qu'on étudie au début du cursus. Ce sont les tendances dans la mode, dans l'architecture et tout ça. Et du coup, ça donne une influence. On est une école de création management. Donc le mot management a fait que, par exemple, moi, dans un département de cinéma, j'ai essayé de placer le mot management tout simplement dans le cursus. Je me dis, mais comment je peux faire pour faire du management et du cinéma en même temps? C'est la question première que j'ai pu me poser quand j'ai lancé le département il y a une quinzaine d'années. Et en fait, on s'est mis à faire en cinéma des séries. Et ces séries, avec les étudiants, on a pris la même ligne. Et du coup, maintenant, les étudiants travaillent dans le jeu comme on peut faire des séries d'animation. Bon, moi, je viens surtout du cinéma d'animation, de la BD au départ, pas du cinéma avec un grand C.
Qu'est-ce que ça leur apporte, pardon, de partir du cinéma ? Industriellement, il est vrai que là, pour le coup, il y a une vraie liaison.
Oui.
Mais pourquoi ?
Alors,
vous...
industriellement, sur les tendances, c'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un personnage, que ce soit dans un dessin animé ou dans un jeu vidéo, ce personnage, on va essayer de le looker dans la tendance, tout simplement. C'est une réponse. Et du coup, cette tendance, elle peut arriver dans l'écriture, elle peut arriver au niveau du design, au niveau de l'ambiance, du genre de cinéma. Et tout est possible.
D'accord. Mais là, on parle d'un aspect visuel au niveau des comptes. Comment les amener au game design, c'est-à-dire au dur du game design, c'est-à-dire les contrôles,
alors,
le placement de la caméra.
En seconde année, là, ils commencent à fabriquer des jeux. Ouais. Alors le souci, moi, je dirais, c'est qu'il y a tellement de contraintes dans le jeu vidéo pour fabriquer un jeu vidéo que nos étudiants, c'est plus facile de faire un film.
Contrainte de quoi alors ?
Contrainte logicielle et le fait de devoir programmer les jeux vidéo. Donc ça, c'est une part de travail. Ça fait des heures et des heures de travaux pour les étudiants. L'apprentissage est très, très, très long. Même s'il y a 5 ans d'études, au bout des 5 ans, nos étudiants ont beaucoup de mal à fabriquer des jeux au niveau où on voudrait les porter. Et ça, c'est un vrai challenge. En plus, ils travaillent souvent seuls. C'est très difficile de faire travailler des étudiants en groupe, à moins de leur imposer des contraintes. Et moi, je trouve que les contraintes techniques empêchent de libérer la création comme on veut faire à Créapole, en fait. Vraiment,
d'accord.
Libérer, c'est expérimental, c'est le choix de chacun. Chaque étudiant va prendre son vécu et son parcours de développement créatif.
C'est pour ça que vous démarrez du cinéma, en fait, et des tendances pour ensuite...
Du jeu vidéo aussi, on peut travailler avec les jeux existants, bien entendu, puisqu'ils sont très marqués par le cinéma, mais c'est notre propre développement.
D'accord.
Face au jeu.
Jusqu'où va aujourd'hui, Jérôme, cette influence du cinéma ? Est-ce que c'est qu'une question de genre, de photoréalisme peut-être aussi, de scénario ?
Alors, évidemment, bien sûr, il y a le photoréalisme qui est quelque chose. Aujourd'hui, je dirais que cette influence, elle va au-delà des contraintes techniques. Elle va, disons, dans une intention aussi. C'est d'arriver à ce que... comment vous dire ? Peut-être que ce que je recherche, le jeu vidéo dans le cinéma, c'est aussi quelque chose que nous procure le cinéma. C'est-à-dire le cinéma a cette capacité d'arriver à dire quelque chose du monde et avoir cette ouverture sur le monde et nous faire voir le monde, réfléchir le monde de plein de manières. Et le jeu vidéo, étant fabriqué entièrement de A à Z, sans ce rapport d'enregistrement au réel, c'est peut-être ça qu'on essaie un petit peu de toucher aujourd'hui, c'est d'avoir cette impression de réel, d'avoir que le jeu vidéo nous parle un petit peu du monde, qu'il arrive à toucher des émotions, quelque chose, et donc ça passe évidemment par l'écriture, ça passe par la technique, ça passe par la mise en scène, ça passe aussi par des nouvelles façons de construire des règles de jeu, comme vous avez par exemple ce que peut faire qui est un petit peu cet auteur de jeux vidéo, David Cage, qui est devenu un peu la tarte à la crème des auteurs de jeux vidéo qui cherchent justement à aller vers brouiller
cinéma.
Les frontières et avec ce côté un peu quelque chose proche de la série, du cinéma et du jeu vidéo, qui y arrive parfois et qui y arrive moins à d'autres. Mais en tout cas, c'est utopie qu'il y a derrière d'aller à essayer de gratter un peu d'humanité à travers toutes les moyens techniques. Et c'est vrai que forcément, les choses évoluant, on peut maintenant créer de nouvelles choses.
Gratter l'humanité, ça, Sylvie, c'est un peu ça quand même, essayer d'en ramener.
Oui. Moi, j'essaie de m'inscrire toujours au niveau des sujets, sur des sujets qui sont dans la tendance, des sujets très importants de l'actualité. Donc j'essaie d'influencer mes élèves pour qu'ils rentrent sur des jeux vidéo. Il y a jeux et vidéo, donc cinéma et jeux, c'est déjà lié dès le départ dans le nom. Et moi, je trouve que, par exemple, si on prend un sujet écologique, On peut faire un jeu très intelligent avec très peu de moyens aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans. Mais un étudiant va faire ça très vite et pouvoir avoir une problématique très étudiée et répondre à une demande sur, par exemple, l'écologie. Et avoir une réponse très amusante, mais qui va en même temps, c'est ludo-éducatif. On est vraiment de plus en plus dans le ludo-éducatif. Moi, je suis appelée par des tas de sociétés, en tout genre. Ça, même, j'ai un exemple d'avoir été appelée par la prison de la santé pour faire des films d'animation. Ça aurait pu être un jeu pour les détenus qui rentrent à la maison de la santé pour leur expliquer comment fonctionne la maison de la santé. J'ai trouvé ça un peu hallucinant, mais on est sur des problématiques comme ça. Donc, on rentre vraiment...
Le jeu vidéo, ça aurait peut-être été un peu compliqué, non ? Au niveau de l'administration, peut-être, non ?
Peut-être pas,
non ?
Je pense que oui.
Non, ça pouvait...
Quand je dis ludo-éducatif, c'est le fait de pouvoir avoir une interactivité entre la personne qui va jouer et le sujet qui est traité.
D'accord.
C'est juste jouer, quoi, jouer. Au lieu de faire un film qui va expliquer, qui va imposer, et on ne reçoit pas le film de la même manière. Par contre, le jeu, on est tout de suite obligé de faire une action qui va nous donner une réponse, qui va nous donner la possibilité de répondre. Donc ça, c'est très important. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, il est là. Beaucoup plus dans l'humain, beaucoup plus dans le monde entier, partout, sur tous les sujets possibles.
Jérôme, est-ce que le cinéma est le seul, finalement, vecteur ou le seul... la seule mère nourricière de cette quête d'humanité. On cite très peu la littérature, je trouve assez. On cite très peu la littérature. Or la littérature dans le cinéma, si on cite Apocalypse Now, on peut citer foule de références, notamment grecques. Enfin voilà, Coppola est allé chercher parfois très loin dans ses références. Pourquoi nous finalement le jeu vidéo a tant de mal à mettre en avant autre chose peut-être que le cinéma, parce que c'est plus facile, c'est une culture qui est plus pop et voilà, plus immédiate.
Oui, bah je pense que aussi les concepteurs de jeux vidéo sont parfois d'une génération ou pas forcément, mais sont énormément nourris de cinéma, de séries télé, peut-être plus que de littérature. Après, peut-être vous pouvez en trouver certains qui le sont, bien évidemment. Et c'est vrai qu'en littérature, vous pouvez tout à fait aussi décliner des choses. Ça peut également servir de source d'inspiration. Je pense que c'est surtout une question de disponibilité, un petit peu d'instinct. Et puis le jeu vidéo étant quelque chose qui prend aussi énormément de temps à faire. Les studios passent des années sur des jeux, les gens travaillent énormément. C'est aussi une question de disponibilité pour sa culture personnelle. Il faut vendre les jeux.
Si je cite Tolkien, il me semble que l'univers de l'heroic fantasy, c'est le jeu de rôle et les jeux vidéo qui ont porté tout en haut, au nul. Mais c'est juste. Et pas le cinéma qui avait techniquement plus de mal à suivre parce que c'était à l'époque techniquement assez difficile de le faire. Or, le jeu vidéo par le jeu. Pardon. Le jeu de rôle et le jeu vidéo ont amené ces auteurs et ces univers imaginaires au plus haut, sans attendre, bizarrement, pour cette fois, l'école du cinéma, ou en tout cas le modèle cinématographique. C'est ça que je voulais dire. Je reviens au mode d'expression, c'est assez important. Effectivement, Jérôme, le jeu vidéo devient de plus en plus un mode d'expression. Alors, politisé, pas politisé, mais en tout cas avec des valeurs.
C'est totalement ouvert pour moi, on peut faire ce qu'on veut. C'est un médium pour moi, c'est comme un crayon ou... On écrit avec un crayon, c'est vraiment un médium. C'est devenu un médium pour moi.
C'est devenu un médium, Jérôme. Ouais, c'est aussi.
J'espère.
C'est aussi évident ou.
Oui, je pense. Oui, il y a toujours des difficultés parce que même si les choses évoluent, en tout cas pour les jeux qui ont le plus, on va dire, qui sont peut-être un peu plus les plus joués, en tout cas ceux qui ont le plus de visibilité, les grosses machines. Donc il y a toujours des enjeux, des contraintes un petit peu forcément commerciales. Qui font parfois on ne doit peut-être pas forcément aller dans certaines directions, mais même ça, ces choses-là évoluent. Et oui, effectivement, on essaie pas forcément de caresser le joueur dans le sens du poil, peut-être de l'amener à avoir certaines des réflexions qui peuvent le mettre mal à l'aise, de créer une certaine ambiguïté, d'aller sur cette dimension politique. Ouais, et toujours, il y a des jeux qui s'engouffrent vraiment dedans, mais ils vont peut-être moins un peu plus enfin dans une branche un peu plus indépendante. Après c'est pas évident, là on prend par exemple un jeu qui est sorti récemment sur mobile et sur ordinateur qui s'appelle Telling Lies, qui est donc un jeu qui vraiment pour le coup est à mi-chemin de la série télé, jeu cinéma et du jeu vidéo, puisque vous êtes devant une interface et vous regardez des bobines vidéo, et à partir de ces bobines vidéo vous devez remettre un petit peu l'histoire dans l'ordre en chopant des bouts de dialogue. Donc c'est les seuls indices que vous avez. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est à la fois une expérience de spectateur et une expérience de jeu. Et sans vouloir vous spoiler ce jeu, si vous n'y avez pas joué, mais il y a une histoire d'espionnage. Bon voilà, on est vraiment dans quelque chose qui aurait pu être très contemporain, qui aurait pu vraiment avoir un ancrage aujourd'hui assez fort, et qui finalement n'y va pas vraiment, parce qu'on se dit peut-être qu'il y a l'auteur, qui est pourtant quelqu'un d'intéressant.
Sam Barlow, je crois.
C'est Sam Barlow qui avait fait un autre jeu sur mobile, Her Story, qui est un jeu passionnant dans ces jeux qui sont à mi-chemin de médium. Et voilà, il est. On aurait pu parler de l'Amérique de Donald Trump. Si vous tapez Donald Trump, par exemple, parce que vous avez un outil de recherche, bah, il ne se passe rien. C'est un petit peu dommage.
J'ai quand même vu quelque chose en jeu avec une petite mèche qui volait à un moment donné.
Juste après
les élections.
Dans Telling Lies ?
Oui.
J'ai pas vu.
Une allusion graphique, alors, pour le coup. Là, une allusion graphique.
Un petit jeu sympathique.
Bah, alors, parce que alors vous êtes plus franche, hein, si vous dites oui, donc pourquoi ? Parce que vous voyez des auteurs émerger ou des étudiants qui veulent dire des choses.
C'est avec l'expérience de pédagogique fait que je vois les générations arriver. Excusez-moi, j'ai un certain âge. Et donc, du coup, je vois l'évolution des jeunes qui vont. Ça va de plus en plus vite. Et cette envie de pouvoir parler de leur passion, parce qu'ils sont de plus en plus passionnés. Moi, j'ai vraiment une admiration pour mes élèves, parce qu'ils sont très précis dans leur passion. Nous, on était très généralistes. Et le fait de fabriquer plus facilement des jeux vidéo, ça va leur permettre d'avoir un langage qui est dans leur médium à eux, le jeu en particulier. Pour moi, c'est ça, l'avenir. Donc ce sera peut-être pas un super jeu avec des super personnages designés, des super décors, mais les choses vont se dire à travers le jeu. C'est vraiment le livre de demain, quoi. Vraiment.
D'accord.
Vraiment.
Le livre de demain, Jérôme.
Oui, sans doute. Les capacités,
en tout cas, c'est bizarre, on dit toujours qu'il est un peu en devenir. On a toujours l'impression que le jeu vidéo est en devenir, en tout cas sur cette pente de mode d'expression autoriste, entre guillemets. Voilà,
Il y a eu un pic au milieu des années 2010, sur ce versant autoriste. Les choses aujourd'hui se sont peut-être un petit peu recadrées devant forcément la croissance absolument phénoménale de jeux qui n'est pas tout à fait équilibrée par rapport au nombre de joueurs, même s'ils sont très 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 nombreux. Il est toujours en devenir, mais parce que je pense que c'est un peu l'essence aussi du jeu vidéo, du fait qu'il soit technologique par essence, qu'il évolue sans cesse, qu'une nouvelle génération de consoles ou de jeux ou de techniques en chasse une autre. Et donc, il évolue, et ses modes d'expression aussi évoluent comme ça. Alors, il y a quelques années, on a voulu être un peu plus pressé, se dire, tiens, voilà, les choses se passent, maintenant, on a des jeux d'auteur. Les gens vont parler d'eux-mêmes, de leur propre histoire, du monde. On va faire des jeux vraiment qui parlent, des mouvements migratoires, de choses vraiment qui pourraient nous toucher. Ça existe, ça se fait de plus en plus, tant mieux. Ça va forcément évoluer. Ça s'équilibre aussi par rapport à une industrie qui est très très lourde, qui coûte très très cher et qui prend aussi un petit peu de tout ça. Donc je pense qu'il y a une marge encore qui est importante.
Si on revient au titre, est-ce que l'écueil, c'est pas la conception de jeu ? À la fin, il faut quand même un jeu vidéo. C'est-à-dire un jeu vidéo qui est un gameplay. Alors, on pourra toujours lui donner les adjectifs, les qualificatifs qu'on veut. Est-ce que c'est fun ? Est-ce que c'est prenant ? Est-ce que c'est... je sais pas si un jeu comme Dark Souls, c'est prenant. Il est masochiste, mais il devient, par son masochisme, prenant. Alors, donc, du coup, c'est pas fun. Le mot est pas fun. Voilà, mais il y a quand même cet écueil du gameplay qui est quand même là pour... qui doit être un bon gameplay ou un gameplay prenant.
Oui, alors après, je pense qu'il peut y avoir deux types d'expériences, parce que si je parlais de Telling Lies juste avant Her Story, c'est pas vertigineux quand vous jouez à ce jeu, vous tapez des mots-clés, alors c'est intéressant parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais en termes d'interaction, c'est quand même relativement limité. Et il y a des jeux, par exemple, ces jeux, les Walking Simulator, où vous vous baladez dans des mondes, comme ça, où vous n'avez pas grand-chose à faire. On peut avoir des interactions assez faibles, on va dire, et une expérience, parce que c'est une expérience, une manière de distiller de la narration, une manière de simple, ou alors une expérience, parce que c'est une expérience graphique, ça peut être très limité, mais ça peut être quand même aussi fascinant. On peut, disons que parce que tu parlais du fun, etc. La qualité de l'expérience peut dépendre de tout un tas de choses, qui va dépendre aussi un petit peu forcément de chaque joueur. C'est peut-être là où peut-être on est un peu différent parfois que devant une expérience de pur spectateur comme le cinéma ou les séries télé, où dans le jeu chacun va peut-être parfois y trouver un petit truc qui lui plaît, ou parfois on est un peu moins égaux que devant un film. Je sais pas.
Sylvie, est-ce que vos étudiants essaient de prendre des techniques purement cinématographiques et de les inclure parfois dans le jeu vidéo? Je pense au plan séquence, au champ contre champ, le hors champ, tout ce vocabulaire qui appartient au monde du cinéma.
Ils sont formés au cinéma, donc il y a une influence dans les cadrages et tout ça. Mais je voulais ajouter, moi, il y a une autre chose qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle. Et je pense que là, on a atteint un niveau ou même le dessin animé, on va pouvoir vraiment aller jouer dans le dessin animé. Donc, il y a vraiment un pas qui va s'en aller vers l'avant, qui est formidable, quoi.
Oui, mais est-ce que tout le monde peut accéder à cette technologie ?
Oui, quand même. Pas tout le monde. Ça a un certain prix. Cela dit, j'ai commencé ma carrière à Supinfocom dans les années 90, et mes étudiants avaient fabriqué un casque avec deux bouts de planche et... Et ils ont fait ça en une semaine, et effectivement, on mettait le casque et on était dans la 3D.
Déjà. Pas d'envie de vomir, rien, non ? Si, quand même un peu, oui.
Ouais, ouais.
Mais bon, ça perdure, hein, de toute façon. Aujourd'hui, il y en a encore.
Ça, on passe de l'autre côté de la caméra, vraiment. Là, on se fait plaisir. On rentre dans son jeu, on fait...
où est le mode d'expression, alors ? Parce que le cinéma, quand il impose par un montage...
C'est ça. Le sens, l'étudiant va le choisir avec ce qu'il va choisir comme sujet. Donc, tout est possible, tous les sujets sont possibles.
Jérôme, est-ce qu'il y a des mouvements de caméra qui sont venus s'incruster on parlait de hors micro de God of War, le dernier en date ? Le reboot, je pense, on peut l'appeler comme ça.
Oui, parce que ce jeu était conçu comme un long plan séquence, mais d'une certaine façon, le plan séquence est quelque chose d'assez intrinsèquement propre quasiment au jeu vidéo, puisque quand vous vous baladez, on peut dire que vous êtes déjà en plan séquence. Il y a des cuts parfois, mais bon. Oui, bien sûr, il y a des choses, et un des studios à l'avoir... plus vraiment employé, qui donc c'est Naughty Dog, le studio d'Uncharted, de The Last of Us, qui lorsque Uncharted et en particulier le deuxième épisode est apparu, c'était évident, il y avait une volonté de faire spectacle, de retrouver, d'arriver à plonger le joueur dans une mise en scène de blockbusters, et qui y arrivait très bien parce qu'il y avait plein d'astuces, d'une façon de déplacer la caméra, une façon de créer parfois des micros effets de montage. Entre les séquences où vous jouez et les séquences où vous êtes durant une cinématique. Oui, bien sûr, c'est de plus en plus utilisé. Oui.
Je pense à Elle est noire avec ses plans séquences repris du cinéma. Donc ça, c'est vraiment...
Qui arrive en VR, d'ailleurs.
Oui, qui arrive en VR, ça, c'est fabuleux. Quoi. Parce qu'on a vraiment, dans les genres actuels de cinéma, on va rechercher dans les films qui datent de 50 ans, des choses qu'on remet dans les jeux vidéo. Donc on a une envie de se réapproprier le vintage. Et tout ça, ça contribue à ce que le cinéma et le jeu s'harmonisent.
Mais ça a un coût, parce que là, là, l'exercice solitaire est complexe. Elle est noire, on ne peut pas faire ça tout seul.
Non,
voilà.
Non, ça, ce n'est pas possible. On peut le simuler. On peut dire, je voudrais bien avoir ça. Maintenant, le réaliser, il faut aller chercher de l'argent.
Est-ce que ce n'est pas la principale barrière à ce que le jeu vidéo devienne un mode d'expression tel que la littérature ? Là, ça va plus loin, c'est un exercice solitaire. Mais où le cinéma ?
Le cinéma, c'est plus facile chez nous, parce que les étudiants, en faisant des séries, ils arrivent à vendre leurs séries. Donc, ils se positionnent en tant que réal junior et ils arrivent à vendre leurs séries. Et très bien. Aux États-Unis, les Américains achètent les séries de certains de nos élèves. Dans le jeu, là, je sens vraiment une barrière. Ce ne serait que déjà pour trouver des stages pour nos élèves, en France. Pourtant, il y a plein de sociétés de jeux. Il y a une super barrière vis-à-vis des... Les boîtes sont petites, donc elles ne peuvent pas financer des stagiaires comme ça. On est limité par le pourcentage du nombre de stagiaires par société. Et ça, c'est un vrai frein au développement du jeu en France. Ça, pour moi, c'est une vraie calamité. Alors que les boîtes d'animation, elles prennent les gens. Il faut beaucoup de monde. Elles prennent des petites mains. Les petites mains voient ce qui se passe dans la boîte. Et ça, c'est un vrai frein. Il faut vraiment qu'on arrive à démocratiser ce phénomène. C'est des barrières. Ils ont beau avoir des super books, avoir fait des choses superbes. C'est toujours une barrière très, très compliquée. À
pourquoi ? Parce qu'on les voit, pas juste parce qu'il n'y a pas assez de place. Qu'est-ce qui fait que...
Les sociétés veulent des petites mains, mais qui savent tout faire. Donc, la programmation, du design, il faut faire le jeu, quoi. Donc, ils n'ont pas eu cette expérience de stage. Et ça, c'est dramatiquement un frein énorme, quoi.
La technologie, est-ce que c'est aussi peut-être l'une des principales différences, même s'il y a beaucoup de technologies en cinéma, mais c'est rarement ce qu'on met en avant ou...
Parce que, évidemment, vous pouvez, en bidouillant, arriver à faire un jeu, et peut-être que ce jeu, parce que vous êtes un génial bidouilleur, il aura peut-être un petit truc de gameplay ou une petite pas de graphique qui va faire qu'il va se démarquer, mais c'est quand même relativement rare, alors que vous pouvez prendre n'importe quel iPhone presque et faire un film, et si de moment que je sais pas, vous arrivez à filmer, vous avez un petit peu de talent, vous avez un acteur qui passe bien devant la caméra, il peut se passer quelque chose, quoi, ou tout simplement vous pouvez faire un documentaire, je sais pas, oui c'est beaucoup plus simple évidemment. Oui,
oui, enfin ça reste je crois que c'est à la fin de Hearts of Darkness, le documentaire de Coppola sur Apocalypse Now, il finit en disant j'espère qu'un jour tout le monde aura une caméra avec lui, ce qui est à peu près le cas en 2019, et fera des films et pourra sortir les films et les montrer et démocratiser l'art. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si ça reste beaucoup plus vrai, les tuyaux sont là, même que ce soit en jeu vidéo ou en cinéma.
Oui, bah ça c'est un vieux truc, déjà du temps de la nouvelle vague, le 16 mm c'est génial, on va pouvoir faire des films, et puis bon, on s'est quand même rendu compte qu'il fallait quand même un peu de talent. Après, il y a eu l'explosion des caméras DV dans les années 90, ouais. Avec les films Dogme, etc., dont quasiment personne n'a vu l'intégralité, puisque l'intégralité des films n'ont jamais été distribués ou sont très mauvais. Après il faut savoir faire des films, tout simplement, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde.
Vous avez signé un papier qui s'appelle « Le cinéma et l'avenir du jeu vidéo ». Est-il l'avenir du jeu vidéo ? Est-ce que le cinéma est encore l'avenir du jeu vidéo ?
J'ai signé ce papier, c'est possible.
Oui, je me suis renseigné en tout cas, mais c'était une question. Est-ce que le cinéma est toujours l'avenir du jeu vidéo ?
Je plaisantais. Alors, c'était un peu ce papier était un peu une posture aussi, parce qui en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'était une manière de dire, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, mais c'était une manière de dire que le jeu vidéo, je pense, il devient jamais, mais après c'est à titre personnel, je pense que chacun aussi peut avoir son expérience, et on peut, je pense que des millions de personnes s'éclatent sur Fortnite. Moi, Fortnite, c'est impossible, mais il me faut quelque chose aujourd'hui où il y a un tant soit peu de derrière d'intention de créer quelque chose qui va toucher un petit peu au monde, va toucher tenter de toucher une émotion, toucher une certaine complexité, en tout cas une interrogation quelle qu'elle soit, qui a un ancrage plus ou moins réel ou pas. En tout cas et je pense que le jeu vidéo n'est jamais aussi intéressant que quand il va sur ce terrain-là, en tout cas.
Sylvie, est-ce que le cinéma est l'avenir du est toujours l'avenir du jeu vidéo? En tout cas, en suivant les cursus de
Créapol, ça ressemble toujours. À... Je pense qu'il marquera toujours. Oui, nous, on est un peu marqués là-dessus. Hein. Bon, j'espère que ça s'ouvrira différemment. Moi, je crois vraiment dans cette ludicité, ce vidéoludique du jeu vidéo. Et je pense que ça va vraiment faire la différence. Dans 5 ou 10 ans, on aura vraiment des choses où on passera un message par un jeu.
Ça existe toujours, hein, mais effectivement, ça c'est pas
de plus en plus facilement, et la technologie évolue très très vite. Donc,
mais après, je dis ça, par exemple, c'est pas, c'est, ça peut, Ça peut être une vision de l'Amérique dans Last of Us 1 ou 2, mais ça peut être aussi quelque chose qui émerge dans un épisode de Zelda. Je veux dire, voilà, ça peut être une vision voilà, du monde qu'on va trouver dans Zelda, ses références voilà, dans certains au jardin japonais, toute une réflexion, par exemple.
Oui, ça peut être divers, hein, c'est pas monde, forcément voilà. Une... Oui, d'accord, je comprends. Donc le cinéma, il n'y a pas de doute, ce cinéma-là, lui,
bah, quand
il
sera toujours... Quand on voit Cyberpunk comme, après Blade Runner 49, je pense que tout est dit, je crois, enfin, je ne sais pas.
Oui, peut-être. Je vous renverrai d'ailleurs au livre du Pixel, des Pixels à Hollywood d'Alexis Blanchet sur le côté cinéma et jeux vidéo qui ont industriellement fait tout de suite, dès le début des années 70, on fait tout de suite compagnie, bande à part justement, ils se sont mis ensemble et chaque grand studio hollywoodien avait d'ailleurs son studio de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, ce qui est étrange, c'est que les rapports sont toujours un peu ambigus. On finira sur cette idée-là, c'est que par exemple, hein, le jeu vidéo s'exporte toujours quand même assez mal au cinéma.
Un peu raté, ouais.
C'est pas toujours marquant.
C'est pas encore.
Et inversement, la confection ou la conception de jeux vidéo a bien du mal à s'incruster au cinéma avec son langage et son montage, puisque c'est son principal attrait.
Au même titre que l'animation qui passe en réel avec des comédiens. Généralement, ça. L'adaptation, c'est un métier très compliqué.
Oui, c'est. Ouais. Si on parle du Roi Lion, ouais. Entre guillemets.
Oui, mais parce qu'on essaie de décliner des mondes. Donc, c'est une des différences entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est que le jeu vidéo nous parle du monde, le cinéma nous parle du monde et le jeu vidéo crée des mondes. C'est un peu une tarte à la crème, mais. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est intéressant quand ils se rejoignent un petit peu. Mais dans les adaptations, oui. Donc voilà, on essaie de créer des univers et de les décliner à travers les quelques, voilà, un peu, quelques éléments de leur franchise. Mais ça fonctionne forcément pas très bien parce qu'il y a aussi beaucoup de malentendus.
Alors, est-ce que c'est malédiction, malentendu ou de toute façon, c'est après, quasiment... complexe,
j'ai un petit faible pour les Resident Evil malgré tout. Moi, mais...
D'accord, mais ça c'est le plaisir voir, coupable.
Moi je voudrais bien voir les Cassos en jeu vidéo, franchement.
Les
Cassos en jeu vidéo.
Ouais.
Ça, si on peut, quelqu'un peut le faire, ce serait bien.
Je sais pas, on va peut-être lancer un appel au volontariat, mais je doute d'une réponse positive dans cette salle. Quelqu'un a une petite une question ou une interrogation sur le. Cette influence du cinéma sur le jeu vidéo. C'était pas prévu que je pose voilà donc mais je... si vous avez on prend juste une minute hein, si vous avez quelqu'un a une petite qui c'est qui est là.
Ouais. À quoi ça sert de faire des mondes virtuels en fait?
Ah bah ça c'est le propre de l'homme, il veut toujours rêver donc je pense que le monde virtuel il existera toujours.
Et il sert à quoi ?
À rêver, justement.
En fait, c'est des rêves, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie ordinaire.
Voilà, on peut se faire peur ou être dans un monde merveilleux.
Et en fait, si on continue comme ça, il y aura deux mondes.
Ah, il y a toujours eu deux mondes aussi. Hein. On s'est toujours battu contre les méchants, les Indiens, les cow-boys, la police contre les...
Enfin, non, je ne parle pas de ça, je parle... Dans les deux mondes, en fait, c'est pareil. Un monde... terrestre qui existe et un monde numérique qui n'existe pas.
Ça existera toujours.
Mais pourquoi il n'existerait pas ce monde ?
Virtuel réel, mais bon.
Moi, je voulais savoir c'est quoi l'intérêt de faire ça, quoi.
L'intérêt de faire des jeux vidéo ou du cinéma ? Ah ben, on a des choses à dire à travers le cinéma. C'est un langage, au même titre que je pense que le jeu vidéo est un langage. Ouais.
Et en fait, les jeux vidéo et le cinéma, ils vont fusionner parce que c'est la même chose. En fait, il va y avoir trois fusions. Le monde de la musique, le monde du cinéma et les jeux vidéo. Ça va fusionner. Et en fait, ça va créer un autre monde. Et voilà quoi.
Non, non, on comprend bien le ouais. Monde virtuel, le monde réel. Mais je dis, Sylvie, c'est ce que vous sous-entendiez. Le fait est que, si le cinéma fusionne, et on arrêtera le débat là, si le cinéma et interactivité fusionnent au point où vous le soulignez,
je pense.
C'est-à-dire que là, on a. Est-ce qu'on arrivera à ce point-là, Jérôme ? Ou est-ce que les deux médium, cinéma et jeux vidéo resteront toujours séparés.
Non, ça restera séparé parce que c'est des expériences complètement différentes. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui sont purement cinéphiles, par exemple, ne jouent rarement. Et ceux qui jouent beaucoup, si regardent un peu plus de films. Mais voilà, enfin, non, c'est des expériences qui n'ont rien à voir et qui sont complémentaires, qui parfois se croisent. Et là, c'est intéressant parce que, de manière générale, c'est intéressant quand les choses se croisent. Mais voilà, non, ça restera. Déjà parce qu'il y a trop d'argent en jeu.
Oui, déjà parce qu'il y a trop d'argent. Puis il y a une infrastructure, en tout cas, des deux côtés. Il y a trop de métiers. Il y a beaucoup de métiers déjà.
Si les métiers aussi, eux-mêmes.
On l'a vu avec la musique, peuvent se côtoyer de plus en plus, voire s'indifférencient. Merci Sylvie Robert, Jérôme Dietmar. Merci d'avoir participé.
Merci
à vous.
Bravo à vous.